excellent sabbat à tout le monde. Vous avez remarqué comme moi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nature de ce temps-là. Le temps de lumière chaque jour diminue, les journées raccourcissent énormément et très vite. On a resté surpris hier soir au début du sabbat, mon épouse et moi, de réaliser à quelle heure le soleil se couchait. Ça a changé rapidement au cours des dernières semaines. Là, les nuits commencent à être pas mal plus fraîches. Mon épouse a commencé à sortir ses couvertures doudou, là, plus épaisses un peu. Et il y a des rosées abondantes le matin, puis des rosées très persistantes. Une belle coloration qui s'installe dans les arbres. Alors, c'est tout ça, ce sont des signes comme de quoi l'automne est arrivé. Les signes sont là. Et on entre avec ça dans la dernière partie des fêtes de Dieu, dans le dernier bloc. Il y a trois blocs de fêtes, pour ainsi dire. Celle du printemps, celle de l'été, ce qui est le début de l'été, qui est la Pentecôte, et à l'automne, les quatre fêtes qui restent. Cycle dans lequel on entre maintenant. Dernière partie du cycle annuel de Dieu. Et cette année, vous n'êtes pas sans réaliser que ces fêtes-là doivent être pour nous plus importantes que jamais. Premièrement, parce qu'elles sont de nature très importante. On ne doit pas négliger les choses que Dieu nous demande de faire et de les faire comme il nous dit de les faire. Première chose. Mais importante, encore plus spéciale cette année, à cause du contexte exceptionnel dans lequel nous vivons. On voit des choses qu'on n'avait pas soupçonnées, mais qui sont rendues là, qui faisaient partie de la prophétie. Et on voit qu'on approche réellement des temps de la fin. Alors, à cause de ça, chaque fois qu'on observe ces fêtes-là, maintenant, on se demande combien d'années encore avant que le Christ soit là. Avant d'abord que la grande détresse soit définitivement déclenchée, complètement déclenché, et avant que le Christ soit là. Le temps raccourcit. C'est ce que ça nous dit. Alors, bientôt, on va quitter nos maisons ou nos logements pour nous rendre au lieu où Dieu a placé son nom pour la fête des tabernacles. Nous, ici, ce sera Drummondville, cette année. Alors, le titre de mon sermon, et le message est en fonction de bien préparer cette fête-là, pour en tirer le maximum de profit et plaire à notre Dieu. Le titre du message, préparer une fête de joie. Préparer une fête de joie. Et vous remarquerez, on va le voir tantôt dans les versets, Dieu nous commande de nous réjouir à cette fête. Parce qu'il y a de la joie à avoir, c'est la libération de l'humanité qui s'en vient. Ça annonce ça. La fin des souffrances, la fin des guerres, la fin des misères, la fin des foyers brisés. La fin de tous les abus, des martyrs qu'on voit dans les nouvelles chaque jour de plus en plus. Comprenez-vous pourquoi c'est une fête de joie? Et j'insiste dans ce sens-là, c'est que nous ne célébrons pas les fêtes pour nous-mêmes. Nous en profitons, nous y goûtons et nous nous réjouissons. Mais nous le faisons pour les autres, pour préparer la voie devant le Christ et pour nous-mêmes être prêts à aider le reste de l'humanité une fois que le Christ sera revenu. Et quand on observe la fête, c'est un geste de foi. Si vous comprenez la fête, que vous voulez l'observer, que vous l'observez peut-être depuis des années, comme c'est le cas de plusieurs, ou que ce soit pour votre première année, comme c'est le cas de certains qui viennent d'arriver dans l'Église, c'est que c'est un geste de foi envers Dieu. Oui. Parce que vous avez vu dans sa parole que Dieu a décrété des fêtes éternellement et vous avez décidé de les observer. C'est quoi? C'est un geste de foi. Pour Dieu, ça dit où est votre cœur, même si vous êtes tout nouveau dans l'Église. Et si vous êtes ancien dans l'Église, comme moi, Dieu veut voir si on va y mettre autant d'emphase pour bien se préparer et la vivre selon ses directives. Allez à Hébreux, chapitre 11. Vous savez, c'est le chapitre de la foi. Hébreux, chapitre 11. Et c'est pour ça que je vous dis que d'observer les fêtes de Dieu, comme ce sera le cas pour la fête des tabernacles, c'est un geste de foi. Pour ceux qui sont à l'Église depuis 40 ans ou 50 ans, ou pour ceux qui sont là depuis 6 mois, simplement. Verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On ne les a pas encore, on les espère. Mais on est certain, voyez-vous, il dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration ou une preuve de celles qu'on ne voit pas. Quand on va à la fête, est-ce qu'on voit le règne du Christ? Non. Sur la terre, non. Dans l'Église, à un certain niveau, oui, par son esprit, par sa présence. Mais on ne voit pas sur la face de la terre le règne de Dieu. Ça va venir. Mais c'est ce qu'on va célébrer. Ça représente le premier millénaire du règne du Christ sur la terre. Alors, quand on va là, notre acte de foi va dans ce sens-là, c'est qu'on est certain de ce qui s'en vient de plus en plus, à mesure qu'on apprend à connaître Dieu et à mesure qu'on met en pratique ses lois. Parce qu'il donne son esprit à qui? À ceux qui observent ses lois. Alors, plus on le fait, plus il nous donne de comprendre et plus il nous donne la force pour être capable de changer. Alors, ceux qui considèrent la fête des tabernacles et qui vont l'observer cette année posent un geste de foi. Et il y a un parallèle là-dedans avec Abraham. Dieu a demandé à Abraham de poser un geste de foi. Énorme. Allez au verset 8 du même chapitre 11, Hébreux. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire au moment où Dieu l'a appelé, c'est par la foi qu'Abraham, quand il a été appelé, a obéi et est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Dieu lui a pas dit tout de suite. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère parce que Dieu ne lui a pas donné à ce moment-là. C'était pour plus tard, au moment de la résurrection. Pour lui, c'était encore une terre étrangère. Comme nous, actuellement, sur la terre, c'est une terre étrangère. Et plus on vit selon les lois de Dieu, plus ce monde-là devient étranger pour nous, parce qu'on ne vit plus selon ces façons-là. Alors, il dit ici, il est venu s'établir dans cette terre-là où Dieu l'a amené, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, pas dans une demeure permanente, voyez-vous, sous des tentes, c'était temporaire. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car, verset 10, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, la nouvelle Jérusalem. Et la Jérusalem qui sera en action lorsque le Christ viendra établir bientôt son quartier général. Alors, Abraham attendait cette cité-là, il ne l'a pas vue, mais il l'attendait, il l'a vue de loin, et il avait la ferme assurance que ça allait se produire. Il savait pas quand dans le temps. Nous, on a la ferme assurance aussi parce qu'on est les descendants d'Abraham dans la foi, les enfants d'Abraham dans la foi. Il est le père des croyants. Alors, on apprend à croire les mêmes choses qu'Abraham croyait, mais qu'il n'a pas vu. Alors, tout ça, je vous ai dit tantôt, vous allez monter à la fête sans voir le millénaire. Mais vous allez le voir intérieurement, dans l'attente certaine que vous allez avoir par la force de l'Esprit. Lui sait que le royaume s'en vient et il va le faire arriver. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un parallèle entre ce qu'Abraham a fait lorsqu'il a été appelé et nous qui sommes appelés à notre époque. Nous continuons à vivre en ce qui nous concerne dans un monde étranger, mais Dieu est en train de nous amener vers un autre monde qui sera établi sur la terre après le retour de Christ et dans lequel nous aurons des rôles essentiels à jouer pour aider les gens sur la terre. Et les gens en ont tellement besoin, vous le savez comme moi. Allez dans Deutéronome maintenant, chapitre 16. Deutéronome, chapitre 16, à partir du verset 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. C'est quelque chose. Et je me rappelle la première fois qu'on a entendu ça, qu'il fallait aller à une fête pendant 7 jours, partir de chez nous pendant 7 jours, c'est frappant, je vois des sourires, là. On a eu probablement tous la même réaction. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir, donc au temps de la grande récolte d'automne. C'est ça, on est rendu à l'automne, c'est le temps de la fête des tabernacles. Et regardez le commandement qu'il nous donne. Tu te réjouiras à cette fête. C'est une fête de joie. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante et le lévite, l'étranger, il y aura des gens de d'autres pays, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Dieu n'oublie personne. On est une famille et la famille de Dieu se forme de gens que Dieu a appelés de différents milieux, de différentes expériences de vie et de différents états de vie. Tu célébreras la fête pendant 7 jours à l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Alors voyez-vous, en allant là, on honore notre Dieu. C'est bien, il nous a commandé de le faire, on y va. En faisant ça, on l'honore. Dans le lieu qu'il choisira, que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Et quand on va à la fête, on décroche. On décroche complètement de nos choses habituelles. Et moi, chaque année, j'essaie de dire aux gens, laissez vos problèmes chez vous. C'est un temps pour se réjouir des belles choses qui viennent, pour approfondir la parole de Dieu, apprendre à connaître les autres dans l'Église, rendre service et se préparer au monde qui vient et rêver de la grande libération que Dieu est en train de préparer et qui va arriver de notre vivant la plupart d'entre nous, parce que c'est tout proche maintenant. Alors, c'est ça, se réjouir à la fête. Voilà la dimension qui nous est donnée pour qu'on puisse vraiment plaire à Dieu puis être fortifié en étant là. C'est pas des vacances. C'est pas dire je m'en vais là puis je vais dormir la moitié du temps puis je vais aller n'importe où faire plein de choses. Ça a déjà arrivé, malheureusement, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait une couple de personnes qui étaient venues à la fête 2 années de fil, je pense. Et ces deux personnes-là avaient quitté la fête pour aller faire des visites dans la région. Ça sentait pas bon. Parce qu'ils étaient pas là pour honorer l'Éternel vraiment. Ils étaient là pour faire du tourisme. Ils étaient à l'église, bien sûr, puis ils étaient contents de connaître ce qu'ils connaissaient, mais ils observaient pas vraiment la fête des tabernacles. Ils prenaient la première occasion pour aller faire des visites à l'extérieur et ne pas assister aux assemblées. Pendant 2 jours, ces personnes-là avaient été absentes de nos réunions, ils étaient allés visiter. C'est pas la fête. La fête, c'est d'être devant Dieu, d'apprendre, de se réjouir, de goûter sa présence, de demander son aide. Alors, bien sûr, cette année, la situation est différente à cause de COVID-19, comme vous savez. C'est déjà très différent pour les organisateurs parce qu'on doit trouver des endroits où on peut se réunir, là où on pourra se réunir, parce qu'il y a des pays où ce ne sera pas possible. Mais dans les pays où c'est possible, faut trouver des salles assez grandes pour le nombre de personnes qu'on a pour respecter la distanciation qui nous est demandée. Parce qu'à la fête, comme on fait maintenant aussi au sabbat, faut respecter les règles des gouvernements locaux et les règles de l'Église. Il faut être en règle à ce niveau-là. Mais ce sont des conditions tout à fait inhabituelles, exceptionnelles. Et certains de nos membres vont devoir célébrer la fête à la maison. Heureusement, Dieu a béni, parce qu'il nous donne les moyens pour être capable de transmettre dans les maisons, soit pour les gens qui écoutent au téléphone, ou soit pour ceux qui ont Internet, de transmettre les assemblées intégralement chaque jour, ce qu'on va faire cette année. Mais il y a des gens qui ne pourront pas, soit pour l'âge, soit pour manque de finances, soit pour conditions de santé. Conditions de santé trop fragiles, il y a des risques dans ce temps-là. Parce que comme on sera avec le public là-bas et qu'on sera ensemble durant les 8-9 jours de la fête, il y a circulation de virus possible autour. Et les personnes qui ont des conditions de santé très fragiles ou qui sont à risque, bien à ce moment-là, c'est dangereux qu'il attrape la maladie. Et M. Weston a bien expliqué que dans ces cas-là, si la personne ne se sent pas à l'aise de venir, c'est mieux qu'elle reste à la maison et qu'elle observe la fête chez elle. On est dans des circonstances spéciales. Alors, Dieu nous donne les moyens pour aider les gens dans ces conditions-là. Et c'est formidable. Il nous a bénis en ce qui nous concerne d'avoir le Zoom. Il y a des gens qui n'ont pas de transport ou qui ne peuvent pas embarquer avec d'autres dans un habitacle fermé parce que ce n'est pas des membres de leur famille. Il y a toutes ces conditions-là. Mais dites-vous une chose. Ceux d'entre vous ici ou qui sont à la maison et qui allez devoir, à cause de ça, rester à la maison, vous allez célébrer la fête de la même façon. Vous allez avoir les mêmes services, les mêmes assemblées que les autres. Bien sûr, ça va vous manquer d'avoir la fraternisation et les bons repas qu'on peut partager ensemble et tout ça. On va penser les uns aux autres, on va s'encourager le plus possible. Mais sachez une chose, dans ce contexte-là, quand vous ne pouvez pas venir à la fête, comme pour un sabbat, à cause des raisons que je vous ai données. Dieu considère ça aussi important que si vous étiez à sa fête. À ses yeux, ça a la même valeur. Alors, ne vous sentez pas en seconde classe de l'Église. Non, au contraire, vous respectez les directives qui ont été données, soit par l'Église, soit par les gouvernements locaux. Faisant ça, on se soumet aux autorités et on honore Dieu en respectant les autorités gouvernementales civiles et les autorités de l'Église. Et Dieu bénit dans ce sens-là ceux dont le cœur est avec lui pour célébrer sa fête selon ce qu'il nous montre de faire. Qu'on soit ensemble dans un lieu, comme quelques-uns d'entre nous vont être, ou qu'on soit obligé, à cause des circonstances, cette année, de rester à la maison. Dieu va bénir de la même façon parce que ce sont ses enfants et il voit le cœur de chacun. Vous savez, au cours de l'année qui s'est écoulée, je parle de l'année en comptant à partir de la fête l'année passée, depuis la fête l'année passée, Dieu nous a donné à chacun et à chacune d'entre nous des occasions de croissance. C'est pas surprenant parce que tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons, tout ce qui nous arrive, Dieu se sert de tout ça pour nous préparer à ce qui vient, pour nous préparer à nos fonctions futures et aussi pour nous montrer les choses qu'on a à changer et pour nous donner de l'encouragement quand elles se manifestent pour qu'on compte encore plus sur lui les prochaines fois. Et on a vécu ça au cours des 12 derniers mois, depuis la dernière fête, il nous a donné des occasions de croître spirituellement et de vaincre, d'avancer dans le fait d'éliminer les faiblesses de nos vies. Il nous a nourris abondamment. Parfois, les gens me disent, « Monsieur Brochu, j'ai de la misère à lire même tout ce qui entre de l'Église. » On est dans la surabondance spirituelle, c'est vrai. Et je pourrais peut-être dire que c'est la seule époque où il y a tant comme que ça. Dans le passé, quand vous regardez l'histoire des églises au début du Nouveau Testament, là, quand il y avait seulement les manuscrits dans les synagogues, les gens n'avaient pas le Tomorrow's World et le monde de demain et toutes ces choses-là pour lire à la maison. Les gens n'avaient même pas de copie personnelle de la Bible. Il fallait qu'ils aillent lire à la synagogue pour être capable de voir les textes. Alors, nous sommes vraiment bénis de façon extraordinaire. On a des sermons en quantité merveilleuse. On peut retourner sur les sites, les écouter, les réécouter pour approfondir la vérité de Dieu. C'est des choses que Dieu nous donne. On a une possibilité de faire des études bibliques très riches avec tout le matériel que Dieu nous donne, toute la littérature qui est disponible pour nous. Et en plus de ça, Dieu permet qu'on vive toutes sortes d'expériences. Des fois très enthousiasmantes et des fois décourageantes. On a de tout. Et à travers tout ça, il se manifeste pour nous aider à passer à travers si on s'accroche à lui. Il y a des périodes où on voit pas loin en avant. Il y a des périodes comme de brouillard. Et c'est là que la persévérance entre en ligne de compte. Mais au cours de l'année, vous avez tous, sans doute comme moi, vécu des périodes comme ça, où il y a eu des périodes plus sombres, où il a fallu faire preuve de ténacité et de persévérance pour tenir bon. Dieu nous a aidés aussi autrement. Dieu nous a aidés en nous montrant nos fautes et en nous corrigeant. Mais vous savez, quand Dieu corrige, et Dieu m'a corrigé cette année, Dieu m'a corrigé de différentes façons. Je vous le dirai pas, par exemple. Là-dessus, je vais pas plus loin. J'ai pas de notes, j'ai rien dans mes notes. Donc, j'arrête là. Alors, oui, Dieu m'a corrigé de différentes façons. Et on apprend tellement de façons extraordinaires. Dernièrement, j'ai appris d'une façon particulière, par exemple. Vous avez vu, là, je commence à guérir un peu mon front, là. La semaine dernière, j'avais une gale plutôt considérable qui a suscité certains commentaires de votre part. C'est agréable. Mais j'avais reçu un morceau de bois sur le bord du front. Dieu m'a protégé et mon œil et ma lunette. Mais ça saignait beaucoup. Mon épouse a eu soin de moi. Mais là, j'ai appris quelque chose et je l'ai mis en pratique. J'ai réfléchi à ça, à ce qui s'était passé. Et vous savez quoi? J'ai demandé pardon à Dieu. Là, je vous surprends. Je le sais. Il a été blessé. Il y a un morceau de vénir, de contreplaqué qui a frappé sa tête au point de l'ensanglanter. Il a demandé pardon à Dieu. C'est pas lui qui a fait ça. Oui, c'est lui qui a fait ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est pas Dieu. Vous savez, de qui j'ai appris ça? De M. Ames. Parce que M. Ames, quelqu'un se rappelle de ce sermon-là, je vois les signes de tête, là. C'est que M. Ames, à un moment donné, s'était blessé en allant trop rapidement, puis en faisant pas attention à quelque chose, puis il s'était blessé. Puis il dit, tout de suite après, j'ai demandé à Dieu pardon d'avoir été négligent, de pas avoir pris soin de mon corps, qui est le temple de Dieu. Vous savez, on a une responsabilité de faire attention de ne pas se blesser. M. Meredith en parlait de temps en temps de ça dans des sermons. Faites attention de ne pas vous blesser. Donc, soyez prudent. Et moi, quand c'est arrivé, après, j'ai pensé à ça, j'avais pas été prudent. Parce que j'avais lancé une série de chaudières par-dessus l'ouverture qu'il y avait, et j'avais pas, avant ça, fixé le morceau de contreplaqué sur le dessus. Ça s'est tout déséquilibré. Et devinez quoi? Le monsieur a reçu le contreplaqué au-dessus de l'œil. Alors, qui était coupable? Le monsieur. Comprenez-vous pourquoi j'ai demandé à Dieu pardon? Merci de m'avoir protégé, mais j'ai demandé pardon de ne pas avoir eu soin du temple du Saint-Esprit, de ne pas avoir fait attention à mon corps. C'est ça. Alors, Dieu nous apprend des choses à travers les circonstances comme ça, c'est fascinant. Et ça me fait penser qu'à l'avenir, quand je fais quelque chose, il faut que je prenne le temps de le faire, puis m'assurer de la sécurité. Ça arrive à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des accidents en dehors complètement de notre contrôle, là. Mais cet exemple-là, j'ai pensé que ça vous aiderait. Moi, ça m'a aidé. Quand M. Ames avait donné cet exemple-là, ça m'est resté. Puis quand j'ai eu cet accident-là, ça m'est revenu. Et j'ai demandé à Dieu pardon. J'ai dit, je vais essayer de faire attention la prochaine fois. Alors, Dieu nous a donné des corrections affectueuses au cours de l'année. Il nous apprend à travers tout ce qu'on vit. Si on s'habitue à être sensible au fait qu'il est toujours là en train de travailler avec nous, Dieu ne regarde pas le restant de l'humanité, là. Il regarde les quelques-uns qui l'appellent maintenant. C'est avec vous et avec moi qu'il travaille maintenant. Pourquoi? Parce qu'il prépare un tout petit troupeau qui va travailler avec le Christ pour guérir l'humanité, pour les consoler, les encourager et leur enseigner après le retour de Christ. C'est pas pour rien qu'il nous montre tout ça, là. Et c'est pas pour rien qu'il a les yeux sur nous, chacun de nous individuellement. Alors, il nous a aidés cette année par des corrections affectueuses qu'il nous a données. Et aussi par la fraternisation. C'est tellement encourageant quand on peut se parler, même si c'est au téléphone, ou qu'on reçoit un petit mot, ou un courriel. Et quand on peut se rencontrer, comme on peut le faire maintenant, physiquement, c'est tellement agréable. Ça nous fortifie, ça nous aide à passer les jours qui viennent. Et tout cela, tout ce que je viens de vous dire, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça produit du fruit à la gloire de Dieu. Regardez dans Jean chapitre 15, et on va voir le verset 8. Jean 15 et le verset 8. Qu'est-ce que le Christ dit ici? Si vous portez beaucoup de fruits, et pour porter du fruit, il faut se repentir, demander à Dieu son aide, sa force par son esprit pour être capable de changer, et en changeant, on porte du fruit de son esprit, on devient plus patient, plus sage, plus pondéré, plus affectueux, plus responsable. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors, ceux qui appartiennent vraiment au Christ, qui sont ses disciples, portent du fruit. Alors, quand on va aller à la fête, ça sera pas vide, c'est pas des vacances, c'est pas un temps pour rien faire. Bien sûr, on se repose. Bien sûr, on peut prendre des bons repas à l'occasion. On va fraterniser tant qu'on pourra, même malgré les circonstances dans lesquelles on vit cette année. Mais ce sera le temps pour évaluer ce que Dieu a accompli en nous, puis à travers nous, au cours de l'année qui s'écoule. De penser à ça, faire un peu le point. Réfléchir aux leçons qu'on a apprises, comme celles que je viens de vous mentionner. Voir les habitudes qu'on a venu à bout de développer, puis s'encourager avec ça. Dieu veut qu'on s'encourage. Faut pas regarder juste les points négatifs qu'on a encore à changer. Puis je sais que vous en avez encore à changer, puis moi aussi. Faut pas regarder juste ces points-là. Regardez les points qu'on a vus et qu'on a pu changer totalement ou en partie. Les habitudes nouvelles qu'on a développées. Parce que pour changer et faire comme Dieu, il y a des habitudes et des attitudes qu'on met de côté pour les remplacer par d'autres. Alors, on va à la fête parce que c'est un temps aussi pour exprimer à Dieu notre reconnaissance pour les belles choses qui s'en viennent, pour ce qu'il a fait pour l'Église au cours de l'année. Prendre le temps de réfléchir à ça. voir les choses positives qui vous sont arrivées au cours de l'année et dire des gros, gros, gros merci pour ça. Voir vos petites victoires, puis lui dire merci aussi. Voir le potentiel de croître encore. Allez dans Psaume, chapitre 1. Psaume, chapitre 1. Dès le début du livre des Psaumes, ici, on va lire les versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. On parle ici donc d'un appelé qui cesse de marcher dans les voies des méchants. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne perd pas son temps à écouter des balivernes ou des choses mauvaises ou à regarder des choses mauvaises à la télévision ou sur Internet. Des choses qui nous amènent dans le mal ou qui sont carrément mal, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, de ceux qui rient des autres, de ceux qui méprisent les autres. On n'a pas rien à voir avec ces gens-là. On doit rester à part de ça. Mais qui trouve son plaisir, je devrais dire au contraire, dans la loi de l'Éternel. Parce que la loi de Dieu, ses 10 commandements, c'est une loi d'amour. Et qui la médite jour et nuit. Ça veut dire quoi, la méditer jour et nuit? Ça veut dire la connaître assez pour que lorsqu'on a des décisions à prendre, qu'on vit des circonstances, qu'on peut se référer à ces principes-là pour savoir comment faire, quoi répondre ou quoi ne pas répondre. Voyez-vous, si on connaît la loi de Dieu, on en vit, à ce moment-là, c'est une façon, si vous voulez, de la méditer jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit. On doit donner des fruits à Dieu en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alors, il est comme un arbre vert planté près d'un courant d'eau. Pourquoi? Parce qu'il est connecté directement sur la source de l'eau vive, comme M. Matt mentionnait dans sa sermonnette. Il est connecté directement sur son Sauveur, sur le Christ, qui donne son Saint-Esprit pour nous aider à vivre, à passer au travers. Et ce faisant, lorsqu'on reçoit sa puissance et qu'on lui demande même d'agir en nous, c'est qu'à ce moment-là, on reste comme un arbre vert qui continue à produire son feuillage tout au long de l'année. On peut lui demander aussi, dans nos combats, dans notre tête, souvent l'adversaire nous attaque dans nos pensées pour nous amener des pensées négatives. Puis des fois, on a de la misère à les rejeter, ça revient. Là, je prends l'exemple que mon épouse me donnait déjà par rapport à ça. Et l'adversaire sait ce qui nous dérange. Alors, il amène juste la bonne chose qui nous dérange, qui nous amène à nous centrer là-dessus, donc à nous décentrer de sur les choses importantes, puis à être un peu découragé parfois, ou à dire « j'y arriverai pas, c'est trop compliqué ». On demande au Christ de nous aider, de lutter en nous, et il nous donne sa force. Mais on doit faire comme mon épouse mentionnait lors de certains de ses combats personnels dans ce sens-là. Elle m'a déjà dit, « Yvon, c'est comme une partie de ping-pong ». Satan m'envoie cette idée-là, je la veux pas, mais ça me dérange, ça me décourage, ça me ralentit. Je la retourne, elle revient, je la retourne, elle revient. Vous avez déjà joué au ping-pong? C'est exactement ça. Alors, j'ai aimé son exemple parce que c'est comme ça. Et c'est comme ça que l'adversaire essaie de nous déstabiliser, puis de nous décourager. Parfois, ça peut être des idées les plus bizarres. On se demande pourquoi je pense à ça. J'ai rien là qui me fait penser à ça. D'autres fois, c'est des faiblesses qu'on a, puis ils nous amènent des petites idées ou des petites images de choses anciennes ou quelque chose de même qui nous ont amené à pécher. Puis là, on est tout de suite sur une autre station, sur un autre poste. Alors, faut rejeter ça tout de suite. Et là, demander, et moi, dans ce temps-là, je l'appelle le puissant chef de l'armée de l'Éternel. De demander au puissant chef de l'armée de l'Éternel de combattre pour moi et de combattre en moi ces idées-là, puis de m'aider à changer de poste, à m'occuper à d'autres choses. Alors, c'est des choses qu'on peut examiner au moment de la fête pour nous fortifier. Et ça veut dire une chose, mettre notre confiance en Dieu. Mettre notre confiance en Dieu. Et mettre notre confiance en Dieu, c'est un geste de foi de célébrer la fête. Et c'est un geste qui est selon les directives de Dieu exactement. Parce que en faisant ça, on apprend à craindre l'Éternel, pas en avoir peur, mais à le respecter, à respecter ses directives, ce qu'il nous dit de faire. Allez dans Lévitique, chapitre 23. Lévitique, chapitre 23. verset 39. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, la récolte d'automne, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, parce que c'est un sabbat le premier jour. Et le 8e jour sera un jour de repos, ça aussi un grand sabbat. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et de saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Et à ce moment-là, c'est ce qu'il faisait. Il ramassait des belles branches comme ça, il se bâtissait des demeures temporaires. D'ailleurs, il y a encore des Juifs qui font ça. J'en ai vu à New York, quand vient le temps de la fête des tabernacles, ils ne comprennent pas tout ce que ça veut dire, mais certains vont se faire des cabanes en branchage comme ça, à cause de ce qui est écrit dans la Bible. On n'a pas besoin de faire ça, mais à l'époque, ils le faisaient. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle. C'est la fête qui est une loi perpétuelle. Pour vos descendants, vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Alors nous, on va aller sous des tentes, mais on a des belles tentes. Ils appellent ça des chambres d'hôtel ou des chambres de motel. On n'a pas besoin d'amener pas de branches, là. Alors, voyez-vous, c'est le même principe. Le principe, c'est d'aller ailleurs que chez nous, dans des demeures temporaires, comme c'est mentionné ici. Sous des demeures temporaires. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël. Quand il les a emmenés au désert, ils ont habité sous des tentes. Alors, c'est un rappel de ça en même temps. Et c'est aussi un rappel que tout ce que nous avons est temporaire et passager. Notre vie, notre corps, notre vie actuelle, le monde autour, heureusement, il est passager. On a hâte qu'il passe, mais tout est passager. Le permanent va venir lorsque nous aurons reçu l'immortalité, lorsque nous aurons reçu la vie éternelle. Pour le moment, c'est temporaire. Mais il faut le réaliser. Et il faut réaliser en même temps que si je connais ces choses-là, c'est pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre, c'est parce que Dieu me l'a donné dans sa miséricorde, parce qu'il le donne aux petits, aux faibles du monde. C'est à vous et à moi qui a donné de connaître ces choses aussi merveilleuses. Vous avez de grands cerveaux humains qui peuvent déchiffrer des théories impossibles à analyser pour nous, mais qui n'arrivent pas à comprendre ces fêtes-là et qui vont dire « c'est passé date ». C'était pour les anciens Israélites, c'est pas pour nous aujourd'hui. Alors que Dieu dit que c'est une fête éternelle qu'on doit observer à notre époque. Le Christ l'a observé, ses disciples l'ont observé, la petite Église de Dieu l'a observé tout au long de l'histoire. Et on y va l'observer en étant joyeux. Et en faisant ça, on a oublié un autre commandement que le Christ nous a donné. Il a dit quelque part, hein, « Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. » Par la bouche de Paul. Et le Christ a dit, lui, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Et la voix de Christ, c'est lui qui a tonné de sa voix extraordinaire sur le mont Sinaï les 10 commandements et qui a donné aussi ses fêtes à la nation d'Israël. Alors, ceux qui entendent la voix de Christ suivent le Christ, suivent sa voix. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a entendu la voix du Christ, hein? C'est le Christ qui l'a appelé à sortir de Ur en Chaldée, là où il restait. Il a entendu la voix du Christ et il est parti. Il lui a fait confiance, il a mis sa confiance en Dieu et il est parti. Ça devait être coûteux à son âge, dans sa situation. Il avait toujours vécu dans ce coin-là. Toute sa famille était là, ses amis, ses entreprises. On laisse tout, on s'en va, parce que Dieu nous a dit de partir. Comme nous, on va quitter nos habitudes pour aller à la fête des tabernacles. On va même quitter, la plupart d'entre nous, nos maisons, nos logements. Et ceux qui ne pourront pas physiquement le faire cette année vont quitter mentalement, si vous voulez, leurs préoccupations habituelles. Et tout en restant chez eux, vont se concentrer sur la fête, sur Dieu, sur les assemblées, sur la prière, sur le fait d'approfondir le sens de la fête et de se préparer à leur responsabilité future. Abraham a entendu cette voix-là. Israël, la nation d'Israël a entendu la voix du Christ qui leur a dit la même chose, de sortir de leur ancienne voie. Mais ils n'ont pas obéi longtemps. La malheureuse histoire d'Israël a fait en sorte qu'ils se sont constamment détournés de Dieu. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans nos sociétés, les drames qui arrivent, qu'on voit les problèmes se multiplier à grande échelle, de façon effroyable, c'est la résultante du rejet de Dieu et de ses voies. On est rendu au bout de l'histoire humaine. Dieu avait dit, « Si vous m'abandonnez, je vais vous abandonner. » Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Il retire ses protections. Alors, nous aussi, on a entendu la voix du Christ. Quand on s'est intéressé, là, pour la première fois à ce que dit vraiment la Bible, c'est pas parce qu'on avait décidé ça. Il y a un autre qui avait décidé ça, qui est beaucoup plus grand que vous et beaucoup plus grand que moi, le gouverneur de l'univers, le Père du Christ, qui a mis dans votre esprit et dans mon esprit d'avoir un intérêt pour aller voir ce que ça dit. Puis après, et c'est votre cas parce que vous êtes à l'Assemblée de Sabbat, et après, de mettre en pratique ce qu'il nous a montré. On a non seulement entendu sa voix, on est allé vérifier, et on a vu qu'il fallait en vivre pour lui appartenir, et c'est là que tout a commencé. Et c'est comme ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on est ensemble, en train de rêver de la belle fête des tabernacles qui s'en vient. Soit ceux qui vont se réunir tous ensemble, ou ceux qui seront à la maison. Alors, la fête des tabernacles nous appelle encore à continuer de sortir de nos anciennes voies, sortir de Ur, de sortir du désert spirituel. Pourquoi? Pour aller écouter la parole de Dieu. Parce que c'est bien marqué, je n'irai pas dans les versets, mais vous pourrez le voir à plusieurs endroits, il nous dit d'aller à la fête pour apprendre à craindre l'Éternel, comme je vous ai mentionné, apprendre à le connaître davantage et à respecter ce qu'il nous dit de faire. Allez dans Ecclésiaste 4, verset 17. Ecclésiaste 4 et le verset 17. Ecclésiaste 4, verset 17. Regardez ce qu'il nous dit ici quand on va dans la maison de Dieu. Et quand on va à la fête, c'est un peu comme aller devant Dieu, mais comme si on était dans sa maison d'une façon, et on est dans sa maison spirituelle, au milieu de l'Église. Ecclésiaste 4, verset 17. « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. » Donc, on doit faire attention lorsqu'on va devant Dieu. Là, on a le commandement d'aller devant Dieu pour nous réjouir de ce qu'il fait, de ce qu'il est, de tout ce qu'il nous a donné, de ce qu'il veut donner à l'humanité. C'est ça qui doit nous réjouir et on doit vouloir aller plus loin là-dedans. « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. » « Approche-toi pour écouter. » J'arrête. « Approche-toi pour écouter. » Ça m'a parlé beaucoup quand j'ai vu ça. Parce qu'on doit aller à la fête, pourquoi? Pour apprendre à craindre l'Éternel. Donc, apprendre à le connaître davantage. Il dit, fais attention. Quand tu rentres dans ma maison, tu viens là pour écouter. « Approche-toi pour écouter. » Et non pas comme les personnes que je vous ai dit qui ont quitté l'Assemblée pendant 2 jours. Là. Ils approchaient pas pour écouter l'Éternel. Approche-toi pour l'écouter plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Ça, c'est surprenant comme expression quand on regarde ça. C'est quoi le sacrifice des insensés? Le sacrifice des insensés, c'est de faire les choses à notre façon, alors que Dieu nous dit de faire autrement. Faire les choses à notre façon. L'exemple parfait que vous avez de ça, vous pouvez aller voir dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22 entre autres, mais tout le chapitre, c'est le cas du roi Saül. Il pensait vraiment plaire à Dieu. Il était le roi qui avait été nommé par Dieu sur la nation d'Israël. Puis à un moment donné, parce que les choses ne sont pas arrivées exactement comme lui avait pensé, vous verrez dans le contexte, il a décidé de faire le travail qui était réservé simplement au oint de Dieu, il a offert lui-même le sacrifice. Alors ça, c'était le sacrifice d'un insensé qui voulait faire comme lui pensait et non pas comme Dieu avait dit. Alors il dit, quand tu vas dans la maison de Dieu, assure-toi de faire ce que Dieu demande de faire pour être vraiment proche de toi puis en tirer tous les bénéfices et non pas que ça devienne une occasion de t'éloigner de Dieu. Et les personnes qui ont fait ça se sont éloignées de Dieu complètement. Elles ne sont plus là. Peut-être Dieu les a écartées. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais elles ne sont plus là. Et c'est arrivé dans d'autres circonstances semblables aussi. Acte 3. Actes, chapitre 3. Il y a beaucoup, vous savez, à la fête des tabernacles. On a beaucoup à apprendre en voyant de quoi il s'agit, en voyant qu'est-ce que Dieu nous demande de faire, comment on doit l'observer. Et si on sait comment l'observer et comment s'y préparer, écoutez, on va attirer non seulement les profits, mais les bénédictions. Parce que Dieu nous amène là pour nous bénir. Et Dieu va bénir ceux qui ne pourront pas venir physiquement parce qu'ils sont empêchés de le faire, mais qui vont rester chez eux. Dieu va les bénir aussi, dans leurs circonstances. Acte 3, le verset 19. Regardez comment c'est beau ici. « Repentez-vous donc et convertissez-vous. » C'est Pierre qui parle. « Pour que vos péchés soient effacés. » Alors, on doit continuer, durant la fête des tabernacles, d'éliminer le mal. C'est pas un temps pour se laisser aller à n'importe quoi, là. On continue à suivre la route qu'on a à suivre. On continue à se purifier. On continue, comme je disais, à vivre dans l'esprit de la fête des pains sans levain, au cours de la fête des tabernacles aussi, pour aller plus loin dans le développement du caractère de Dieu. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Pourquoi? Verset 20. « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Wow! Et regardez de quoi il s'agit, ces temps de rafraîchissement. « Et qu'il envoie celui qui vous est destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Dieu avait annoncé le millénaire du règne du Christ par ses prophètes autrefois. Et Pierre rappelle ça aux gens ici. Mais dit, oubliez pas, ne faites pas le sacrifice des insensés, ne faites pas les choses à votre façon, continuez de vous purifier en allant à la fête des tabernacles, en ayant ça à l'esprit. Et appréciez ces temps de rafraîchissement que Dieu vous donne, parce qu'ils nous permettent de sortir de nos problèmes habituels, de nos préoccupations, pour se consacrer totalement à la joie de voir le monde qui vient approcher pour la libération de l'humanité et pour notre bénédiction aussi. Parce que c'est à ce moment-là qu'on recevra l'héritage et qu'on pourra vraiment aider les autres sans limite. C'est grand ce que Dieu nous donne ici. Alors voyez-vous qu'il faut déjà commencer à prier pour que Dieu inspire les messages qui seront donnés à la fête. Que Dieu bénisse les transmissions Internet par Zoom ou par GoTo ou autre moyen technologique pour ceux qui l'ont. Dans certains pays, ils l'ont pas. Il faut agir autrement. Je viens d'envoyer des textes écrits en Europe qui vont être traduits en Ewey et en un autre langage que je ne connais pas du côté de l'Afrique. Ils vont être traduits par des frères là-bas qui peuvent prendre le français et le traduire en Ewey, par exemple, ou en d'autres langages de la région, je ne me rappelle pas les noms, là. Alors, j'ai envoyé ces textes-là de sermons pour qu'ils puissent avoir quelque chose à donner aux membres là-bas. Ceux qui vont pouvoir se réunir. Et certains de ces gens-là vont faire des longues distances à pied, dans des circonstances difficiles, pour aller entendre la parole de Dieu. C'est formidable. La grande œuvre de Dieu s'accomplit dans des toutes petites choses, à la grandeur de la face de la terre. C'est incroyable ce que Dieu est en train d'accomplir. Alors, priez pour que toutes ces choses-là se réalisent et que les enfants de Dieu, qui sont éparpillés partout sur la face de la terre, puissent avoir la nourriture dont ils ont besoin. Ils en ont besoin autant que nous autres, des fois plus, dans des circonstances extrêmement difficiles, pour que nos petits frères et nos petites sœurs d'ailleurs puissent avoir la nourriture qu'ils ont besoin pour être encouragés et qu'ils soient protégés aussi. Voyez-vous, c'est des choses auxquelles on doit penser et auxquelles on doit penser assez pour en parler à Dieu au cours de la fête. C'est ça, la famille de Dieu. C'est de penser aux autres membres de la famille ailleurs qui ont des besoins. Pas juste dire, moi, je vais m'amuser à la fête à Drummondville ou ailleurs, puis je vais tirer le maximum de plaisir de tout ce que je peux faire. Et j'espère que les autres, ça va bien. Non, j'ai un rôle à jouer. Demander à Dieu qu'il bénisse les autres. Et là, il y a une chimie spirituelle qui s'opère de la part de Dieu. Et Dieu voit qu'on se préoccupe des autres. On est là pour les autres. On n'est pas là pour nous-mêmes. Monsieur Appartient nous l'a dit souvent. Vous n'êtes pas appelé pour vous-même. Vous êtes appelé pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour que Dieu appelle d'autres personnes. Et en faisant ça, vous allez vous préparer à être digne d'échapper aux choses qui viennent et aussi juger digne de diriger les nations sous le Christ pour aider les autres. Même chose encore. C'est toujours le principe de donner au suivant. C'est toujours le principe de donner au suivant. Et quand je vois ça dans l'Église ici, puis j'en vois plusieurs exemples, je trouve ça tellement encourageant. Et quand je vois des membres qui en aident d'autres de différentes façons, et vous savez, c'est pas toujours évident, mais moi, je le vois des fois par en arrière, ce qui se passe, que un tel a rendu service, une telle a rendu service, encouragé ou tout ça. Ça, c'est la famille de Dieu en action. C'est vraiment formidable. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on doit se préparer pour la fête. Et à la fête, il faut penser aux autres. Prier pour eux à ce moment-là. Prier aussi que Dieu bénisse les événements qui vont se passer à la fête. Parce que dites-vous que cette année-là, ça sera comme aucune autre année. Comme actuellement, c'est comme aucune autre année auparavant, avec COVID-19, ce qu'on vit présentement. Mais rendu à la fête, ça sera encore ça, peut-être pire, peut-être d'autres choses vont s'ajouter. Et on aura des contraintes qu'on n'a peut-être pas imaginées. Demandons d'avance à Dieu de nous aider à travers ça et de nous aider à faire une fête selon son cœur, c'est-à-dire avec joie et reconnaissance. Puis à lui faire entière confiance pour aplanir tous les sentiers, pas seulement pour les petits nous à Drummondville, mais pour les autres à travers le monde. Et ceux qui sont obligés de rester chez eux seuls. Pour que Dieu leur donne, vous savez, Dieu, il y a ses petites façons de procéder, pour que Dieu leur donne à chacun ce qu'ils ont besoin. Dieu sait, lui, la personne âgée, éloignée, qui ne peut pas venir, mais qui aimerait venir. Dieu sait ce qui peut vraiment l'encourager. Alors, si je lui demande d'aider cette personne-là, ou telle autre personne dans un tel cas, de façon particulière, Dieu va le faire. Parce que c'est sa fête. Puis il veut que sa famille soit dynamisée, soit renforcée à travers ses jours de fête. Alors, quand il voit certains de ses enfants vouloir que d'autres en bénéficient, eux peuvent pas le faire directement, mais ils savent où passer pour que ça marche. Ils passent par en haut, par le Tout-Puissant, au nom du Christ, bien sûr. Alors, c'est ça qu'on a comme responsabilité. Et demander à Dieu de nous aider à la fête, de nous adapter, d'avoir une souplesse d'adaptation aux circonstances qui vont se présenter. Parce que ça ne sera pas du tout comme les autres sites de fête qu'on est allé, ni comme les autres années de fête. Alors, il faudra avoir une souplesse de réaction et toujours avoir une patience, puis toujours demander à Dieu son aide dans ce cas-là. Psaume 42. C'est tellement formidable la fête. Et j'ai hâte de voir les commentaires des nouvelles personnes avec nous. Celles qui vont être physiquement avec nous ou celles qui vont suivre la fête à Internet, mais qui sont avec nous pour la première fois. J'ai hâte d'avoir vos commentaires après. Psaume 42, versets 2 et 3. Vous savez, avant la fête, là, faut que Dieu sente qu'on veut vraiment être là, qu'on y tient. Et j'espère que vous êtes à ce point, même si vous êtes nouveau. Et je pense que je l'ai senti dans les nouvelles personnes qui sont avec nous aussi, ce désir-là d'être avec Dieu, puis de comprendre davantage la soif de Dieu. Et c'est ce que l'auteur du psaume ici mentionne, et ça doit nous représenter. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Et si vous avez déjà vu des animaux qui ont soif, de quelle façon ils réagissent? Et si vous avez déjà vu un film là-dessus sur des chevreuils qui avaient soif, là, ils respirent l'air pour essayer de voir parce que s'il y a de l'humidité dans l'air, pour être capable de suivre la source de l'humidité, ils ont soif. Comme une biche soupire près des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mettons-nous ça dans le cœur avant de partir pour la fête et demandons à Dieu de nous donner de soupirer après sa vérité. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Ça va arriver plus tard, quand Christ va revenir bientôt, bien sûr. Mais on va se présenter devant sa face à sa fête, parce que c'est sa fête et il sera présent. Même s'il n'est pas présent comme il sera présent à son retour, il est présent par son Saint-Esprit. Comme c'est sa fête, il est très présent et il va agir. Formidable. Alors, les appelés désirent paraître devant Dieu. Et il faut aller là, je dirais, dans une optique spéciale aussi, en réalisant qu'on est une famille. Oui, j'en ai parlé tantôt, mais c'est pas seulement ça. On est une famille royale. Et pas seulement ça. On est la famille divine royale. C'est beaucoup. Pas pour se vanter, mais pour voir l'ampleur de l'appel, pour qu'on soit de plus grands serviteurs encore. Parce que c'est à ce titre-là qu'on pourra se présenter devant les humains souffrants après le retour de Christ pour les prendre dans nos bras, pour les consoler, pour les encourager, pour les bénir. C'est pas en tant qu'autorité sévère, mais en tant que pasteur, avec un âme de berger, si vous voulez, envers les autres. Alors, quand on va à la fête, on fait dans notre esprit un voyage intérieur, si vous voulez. On regarde les choses qui viennent, et on aura des messages là-dessus, qui vont décrire comment le monde sera lorsqu'il sera changé. C'est un voyage vers une destination précise en ce qui nous concerne, parce que, premièrement, ce qui va nous arriver à la fête des trompettes, c'est d'être transformé en un instant, si nous sommes encore vivants. Et si nous sommes décédés, de naître à l'immortalité, de naître dans la famille de Dieu. Et ce sera le moment aussi de recevoir notre héritage, parce qu'on est co-héritier de Christ, qui est, en passant, le propriétaire de toutes choses. Alors, on va devenir copropriétaire avec notre grand frère de tout ce qui existe. Là, ça commence à être gros, là. Ça dépasse l'imagination humaine. C'est la Bible qui nous dit, dans Romains, vous êtes co-héritier du Christ. Donc, le Christ possède toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Le Père a créé toutes choses par le Christ et pour le Christ. Et pour ses petits frères et ses petites sœurs qui vont être fidèles jusqu'au bout. Et c'est à ce moment-là qu'on recevra les récompenses aussi. Selon ce qu'on aura fait avec ce qu'on sait. Si on gouvernera sur 2 villes, 5 villes, 10 villes, une région, comme la Bible dit, comme le Christ a donné dans les exemples qu'il nous a fait. Et ce sera en même temps, écoutez, ceux qui aiment faire des projets, là, hommes et femmes, les deux aiment faire toutes sortes de projets. On aura des projets extraordinaires. Parce qu'il va falloir reconstruire un monde totalement détruit. Si on pense que c'est détruit actuellement en Californie avec les feux, ou si on pense que Beyrouth est détruit actuellement avec les explosions qu'il y a eu, l'ensemble de la planète sera dans un état semblable, sinon pire. Alors, il faudra reconstruire. Reconstruire et aider les gens qui seront là, leur montrer comment faire, les consoler. C'est ça que je vous disais tantôt, les consoler, les encourager. Parce que les gens qu'on voit dans les ruines, qui ont tout perdu, sont blessés, sont déchirés, qui n'ont plus de passé, qui n'ont plus d'avenir. Ces gens-là, il y en a qui vont survivre, qui vont être là. Il faudra leur donner l'espoir, puis travailler avec eux. Mais imaginez-vous la joie que nous aurons de pouvoir les guérir, non seulement physiquement, mais émotionnellement et mentalement, pour ceux qui ont certains problèmes d'origine mentale. Tout ça, Dieu va nous donner le pouvoir de guérir ces choses-là pour aider les gens. C'est formidable. Écoutez, on est des étrangers sur la terre. On est seulement des passagers. C'est pour ça qu'on habite une tente faite en matériel dégradable, biodégradable. Après notre mort, ça s'en va, ça retourne en poussière. C'est ça que Dieu avait dit. Hein? Et tout le restant est semblable à ça aussi. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique passe. Et nous, en tant que chrétiens, on est des étrangers sur la planète. On est dispersés, le petit peuple de Dieu, sur la face de la terre. On est en voyage. On passe dans ce monde éphémère pour pouvoir nous rendre notre vraie patrie, l'immortalité, et ensuite être capable de reconstruire le monde. C'est incroyable ce rêve-là que Dieu nous a donné, qu'on ne connaissait pas avant qu'il nous appelle, et qu'on découvre et dont on voit la beauté à mesure qu'on apprend des Écritures, à mesure qu'on apprend dans les lectures qu'on fait, à mesure qu'on apprend dans les sermons. On verra la ville sainte. Allez dans Psaume 48. On est dans Psaume 42, allez juste un peu plus loin. Psaume 48, le verset 2 à 4. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Ça, on le comprend, plus on apprend à le connaître et à voir ce qu'il fait. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, son gouvernement, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Là, il parle de Jérusalem après le retour de Christ. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. C'est de ce côté-là que le Christ aura ses quartiers généraux. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. C'est lui qui est le refuge de tous les habitants. C'est lui qui est le secours de tous les habitants. Maintenant, après, il intercale un verset ou deux où il nous dit ce qui va être arrivé juste un peu avant, quand le Christ va revenir. Pensez-vous que les gens vont l'accueillir avec joie? Ils vont vouloir le détruire, hein? Les rois de la terre vont se mettre ensemble pour le détruire. On voit ça dans les textes. Regardez ce qu'il dit après. « Car voici, les rois s'étaient concertés, les dirigeants de la terre avec leurs armées. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tout stupéfait. Ils ont eu peur. Ils ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tircis. » Alors, il vient dire, c'est tellement beau la ville où le Christ est, et il donne le côté de la ville où le Christ aura ses quartiers généraux, mais il rappelle avant ça qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se sera passé juste avant, quand les rois vont venir l'attaquer et qu'ils sont détruits. Et après, il revient à ses premières pensées, au verset 9. « Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu, qui la fera subsister à jamais. » Voyez-vous le contexte, voyez-vous ce qui est dit ici? Il commence par décrire la Jérusalem nouvelle où le Christ sera là. Et après, il dit ce qui est arrivé juste un peu avant, quand les rois se sont ligués pour détruire le Christ. Et après, il revient, il dit, et ça nous concerne, nous, ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu. Alors, nous sommes ceux-là. On va dire, on avait entendu dire, les ministres de l'Église nous en ont parlé pendant des dizaines d'années au moment de la fin. Que ça allait venir, que Jérusalem allait être le quartier général du Christ, mais qu'avant, au moment de son retour, les armées allaient se liguer pour le détruire, mais qu'ils allaient être éliminés, balayés. Et là, on va pouvoir dire, nous avions vu, nous avions été mis au courant. C'est ce qu'il dit au verset 9. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées. La prophétie, elle est puissante. Elle est extrêmement puissante et elle est précise. Déterminé de vous réjouir à la fête de Dieu. Allez à Ésaïe, s'il vous plaît, un dernier verset, Ésaïe chapitre 61, après le livre des psaumes, Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. C'est le Christ qui parle ici. Et quand il parle du Seigneur, il parle de son Père. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint, le Christ a été oint, et le nom Christ veut dire oint, oint de Dieu. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Qu'est-ce que le Christ est venu faire la première fois? Il est venu annoncer la bonne nouvelle du monde à venir. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers et physiques et spirituels la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Ça, c'est la dernière année du 3 années et demie de grande détresse. Pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Vous avez bien lu, il dit, au lieu de la cendre, ils sont rien et ils ont vécu des choses tellement difficiles. Mais il dit, s'ils sont fidèles, je vais leur donner un diadème. C'est une couronne. Le Christ sera roi des rois, seigneur des seigneurs. Il y aura des petits rois sous lui, vous et moi, si nous sommes fidèles. Une huile de joie au milieu du deuil. Et nous, nous allons monter à la fête en demandant à Dieu une huile de joie. Alors qu'il y a du deuil autour partout dans le monde où nous vivons et de plus en plus. Demandons à Dieu de nous donner cette huile de joie pour lui plaire, puis être fortifié. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il ne faudra pas être abattu à la fête. Être joyeux, reconnaissant, prendre du temps avec Dieu, à genoux, en réflexion, en échange avec les autres, en lecture, afin qu'on les appelle des térébins de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et vous pourrez lire les autres versets ensuite jusqu'au verset 9. Vous allez voir tout ce qui nous attend, la reconstruction du monde qu'on aura à faire. Relever d'antiques décombres, les villes ruinées, les rebâtir et ainsi de suite. Préparer une fête de joie. Il y a des choses extraordinaires qui nous attendent au-delà des quelques temps qui sont devant nous. Comment? En priant Dieu d'abord, la première chose. Maintenant, qu'il bénisse la préparation et la tenue de la fête pour nous, pour ceux qui ne seront pas là physiquement, en jeûnant. Et on aura le privilège de jeûner ensemble dans quelques jours à la fête des expiations, parce que c'est un jeûne commandé. Et on... Rien n'empêche qu'on jeûne un autre moment donné aussi d'ici là pour nous fortifier, par des études, par des lectures. Et moi, ce que je vous suggère, c'est ce que M. Weston a suggéré dernièrement dans certaines de ses présentations, de lire pour la première fois ou de relire et d'étudier la brochure qui est intitulée « Votre ultime destinée ». Votre ultime destinée, justement, ça décrit ce que Dieu veut faire avec nous après le retour de Christ, ce qui nous attend. Et ça nous donne un avant-goût ou une saveur de la fête des tabernacles et de pourquoi on va à la fête. Alors aujourd'hui, pour un bref temps encore, Nous vivons à Ur, en Chaldée, dans un désert spirituel, dans un monde méchant et dans un monde qui nous est étranger. Mais bientôt, le millénium sera là. Le Christ sera revenu. Rêvons de ce qui vient. Que nous soyons ensemble ou que nous soyons seuls, chacun chez nous, préparons une fête de joie. C'est le commandement que Dieu nous donne pour sa merveilleuse fête des tabernacles.